très content ce soir de faire ce parcours avec vous dans l'œuvre de Serge Valletti-Piella. Nous avons invité plusieurs de ses complices, qu'ils soient metteurs en scène, comédiens, c'est une soirée ce soir qui sera moins universitaire que les autres soirées à l'intérieur d'auteur où nous faisons toujours intervenir quelqu'un qui va faire une entrée théorique dans l'œuvre de l'auteur. Ici, il semblait que dans ce labyrinthe qu'est l'écriture de Serge, c'était beaucoup plus intéressant de le parcourir avec la voix de deux acteurs. Je vais vous présenter d'ailleurs les gens qui sont ici. Il y a Serge Valletti, qui nous a fait le plaisir de venir du midi de la France jusqu'ici. Éric Elmosnino, qui est comédien et metteur en scène. Il nous parlera tout à l'heure de son projet avec un texte de Serge Valletti. Chantal Morel, qui vient de Grenoble et qui a une compagnie à Grenoble et qui a monté aussi plusieurs pièces de Serge Valletti. Et Jean-François Perrier, qui est comédien et beaucoup d'autres choses, enfin, en l'occurrence ici comédien, et qui nous fait plaisir de travailler, de faire ce parcours avec nous. Donc avec Jean-François, on s'est plongé dans les textes de Serge, on a voyagé un peu, on a essayé de concocter un parcours qui fait sens un peu à l'intérieur de tout ça. C'est vrai que l'écriture de Serge est très prolifique, nous mène dans des endroits où on ne s'y attend pas, par des chemins pas toujours très droits. Mais alors, notre parcours va être droit quand même. Et on va commencer par le commencement. C'est une lettre de Yves Reynaud qui a concocté avec Serge cet ouvrage que je vous conseille de lire, qui est une sorte de portrait de Serge Valletti à travers une longue interview d'Yves Reynaud et avec pas mal d'annexes, de photos, de choses comme ça. Et il y avait Yves Reynaud qui a interrogé longuement Serge, qui avait longuement lu ses œuvres, a écrit une lettre que Jean-François va nous dire.
Lettre à Serge V. Ce que tu écris est parfois difficile à démêler pour moi. Le tressage du sens n'était pas un de tes procédés favoris. Et quand je dis tressage, c'est un euphémisme. C'est plutôt de labyrinthe ou de nœud dans toutes les acceptions du terme qu'il faudrait parler. Mais j'ai toujours à te lire une sorte de plaisir jubilatoire de voir commettre tant d'infractions au code de la logique, de la grammaire, de l'orthographe et du vocabulaire, bref, au consensus de la langue dominante. En te lisant, je pense parfois à Jarry, Alfred, à Joyce, Ulysse, à Franz, Kafka, à Marx, Groucho. Mais je pense surtout à la langue vraie de l'enfance. Il y a dans ton écriture comme une protestation sourde, enfantine justement, contre les mornes normes de la culture officielle. Comme une sorte de combat personnel que tu mènerais contre le monde tel qu'on le parle et le français tel qu'on le pense. Un combat personnel où pourraient se retrouver tous ceux, exclus, inadaptés, décalés, dont le langage n'est pas celui de l'école et des médias. En ce sens, un combat politique, même quand le texte, a priori, semble totalement se désintéresser de ce champ-là, ce qui n'est pas toujours le cas. Tout petit, il y a sans doute quelque chose que tu n'as pas supporté. Mais quoi? Ça restera ton énigme pour mon plus grand plaisir. Yves Reynaud.
Il y a encore qui rentre, là. C'est pas un hôtel, ici, hein. Il est fou, il rentre, il sait même pas que je suis fou. Ben c'est vrai, je suis fou. C'est malade, ils m'ont dit. Pour dire, hein. T'es fou, il m'a dit. Oh, je suis pas fou, je suis juste coopté par moi-même. Il ne savait pas ça. Ils viennent de Vienne. Ça a bien dansé là-bas. Bon, je dis, je vais dans. Après, dites, piaf. Ouais, hein. C'est pas tous les jours qu'on attend des gens qui vont à un endroit qui ne savent pas qu'ils y vont pas. Hein. Bon, ben, je me comprends. Hein. Bon, ben, je vous préviens, ça rentre, mais ça n'en sort pas. Hein. C'est pas le zoo ici. Hein. Je vais pas passer ma vie à trimballer, à retrimballer. Hein. Ce compte, je retourne faire un mandigo, moi. Hein. Vous m'entendez, moi. Tronche de sconce. Pas donner l'étiquette, mais puis quoi, bon, je vais te les déchirer dans la gueule, moi. Hein. Tronche de sconce. Bon, ils dorment tous, alors. Il n'y a que moi qui veille, on la copiera. Bon, alors, à qui faut que je le dise, moi, ce que j'ai à dire? Docteur? Doc? Putain, mais j'ai rien, ce truc, c'est quoi? C'est quoi, ça? C'est une momie? Eh oui, c'est une momie, dites-moi. Je parle à une momie maintenant. Devoir savoir des fois que personne ne m'a vu parler à une momie, parce que sinon les autres ils vont dire « Oh, c'est le type qui parle aux momies !» Alors qu'après tout, c'était des gens les momies, hein. Peut-être c'était une grosse crevure avant d'être momie. Ou alors on est gentil, pas savoir quoi. Question que réponse, j'ai une momie maintenant, j'ai tout. Bon, je vous préviens. Hein. Je ne laisse plus rentrer personne maintenant, même le pape, hein, sinon on va être encerclé de l'intérieur. Et ça c'est très mauvais, quoi. C'est même très mauvais. Catalogue des stratégies, c'est même classé comme une faute impardonnable. Alors qu'il ne faut pas se tromper, hein. Allez, à adieu, la momie. Réponds pas. T'as raison, ça vibrerait les bandelettes, là, pour vous dire. Oh, regardez, la nuit. Vous savez ce que c'est, la nuit? Comme quand on ferme les yeux en plein jour, on n'y voit plus rien, c'est le noir. Eh bien, la nuit, c'est exactement comme quand on ferme les yeux, le regard ouvert. C'est la nuit. Alors, on rentre dans un état que peut-être certains d'entre vous connaissent, ça s'appelle le sommeil. Et c'est pas qu'on a ouvert, mais ils sont fermés. Et on ne le sait pas. Alors, autre chose qui se fait dans le sommeil, ça s'appelle les rêves. On croit que ça nous arrive, mais en fait, ça ne nous arrive pas du tout. Par exemple, je m'arrive pour les voitures, les gens, moi, je suis toujours dans mon lit. Hein. Mais alors, quand je me réveille, j'ai le sommeil. Et là, je suis réveillé, je me rends compte, en fait, que je suis en train de parler à des gens qui me regardent. Ils sont là, ils sont assis. Il y a des femmes, des hommes, quelques enfants en short, une vieille dame avec un costume, une vieille dame. Putain, j'ai l'impression de mal, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je raconte mon rêve que je suis en train de faire à des gens qui le connaissent, puisqu'ils sont dedans? Au bout d'un moment, je me raconte en fait que ces gens sont faits comme dedans de la guimauve. C'est de la guimauve. Je touche le bras de l'un, mais c'est de la guimauve. Que tu viens, de la guimauve. Ah bon, j'adore ça, la guimauve. Ah, j'adore ça, la guimauve. Dans mes rêves, hein, parce que dans la réalité, j'ai pas du tout ça. Il n'y a rien que je déteste plus que la guimauve. Celle qui arrête pas de se tortiller là, mais où ils sont, le bois ça, dans cette forêt, devant les baraques. T'es contre les baraques à frites, mais à guimauve. Hein, et bien c'est une baraque à frites qui, quand tu s'approches, au lieu de sentir la frite, et bien c'est ça la guimauve. Voilà. C'est une baraque à guimauve. Ouais. Ça a les couleurs de toutes les couleurs. Comme un arc-en-ciel qui se tord comme un limaçon. C'est plein comme dans de la guimauve. Et moi j'adore ça la guimauve. Dans mes rêves, j'adore ça. Et même une nuit en rêve, j'ai croisé un type qui était habillé en mauve. Je lui ai demandé comment il s'appelait, il m'a dit, je m'appelle tout. Bon, je l'ai embrassé sur la bouche au lit. C'est pour dire, si j'aime la guimauve la nuit, hein, la journée, moi je déteste ça. Hein. Comment forcément tous ces gens devant moi, guimauve, je suis toujours empêché. Hein. J'attrape le bras du premier qui se présente, puis je tire dedans comme un malade. Et là, je me réveille. Mais vous inquiétez pas, je vais pas le faire. Hein, parce que quand je mords comme ça, c'est que je suis dans mon lit. C'est pas la nuit. Donc je le saurais si j'étais dans mon lit. Oh, et une nuit, j'ai rêvé que j'étais dans mon lit. Oh pétard. Quand je me suis réveillé, je savais plus où j'étais. Mais forcément, j'étais dans mon lit. Et un jour, je me suis endormi dans un train et j'ai rêvé que je me faisais contrôler dans mon lit par un type avec une casquette molle. Peut-être que je t'ai foutu un taquet dans la gueule. Quand je me suis réveillé, le type il était par terre. Hein. Il roulait dans le couloir avec sa sacoche. Mais ça, c'est la nuit des rêves. Hein. Ben oui, c'est. Moi, ça ne vous dérange pas, je m'en sors un peu pour faire venir la nuit. Elisabeth? Tu as quoi ça?
Christian Mazzocchini, qui est un des plus vieux complices de Serge, depuis Marseille. Je veux dire pas vieux en âge, vieux en... depuis longtemps. Vous avez travaillé depuis longtemps ensemble.
En bamboula.
Si on veut. Vous avez travaillé ensemble depuis les années... la fin des années 60.
Ah, la Libération.
Juste après la Libération.
Oui, oui. 88.
Pardon, la Libération. Ah non, 88, c'est Chantal Morel. Oui. Non, là, c'était dans les années 60, les années 70. Oui. Donc, Serge et toi, vous avez... et vous continuez toujours aujourd'hui à faire des tchac-tchades dans le genre dont on vient d'entendre. Qui sont des interventions. Je peux expliquer un petit peu.
Tchatchan, en fait, ça tourne autour des gens d'ici, de l'aventure qu'on a fait avec Serge. Mais le tchatchan, c'est un prétexte en fait pour boire un coup. Avec des gens.
Voilà. Je demande à des gens de créer un apéro chez eux avec des gens qui n'ont pas vu depuis longtemps, ou des voisins qui ne connaissent pas, ou qui sont en engueulade avec, voilà. Puis une petite soirée comme ça, puis je lis des textes de Serge. Et puis je propose aussi aux gens d'intervenir dans les gens d'ici et de venir me couper à certains moments précis, quoi, de faire ce qu'ils savent faire, soit raconter des histoires, chanter, danser, parler avec passion de leur boulot ou autre chose. Voilà. C'est ça la tchatcha.
Donc on en a eu un petit, tout petit échantillon. Très petit. Ça peut durer. Et durer le temps d'une soirée, c'est dans les bars, c'est dans les théâtres, c'est un peu partout, c'est comme on veut. Et c'est, bon, comme dit Jacques Michel, Serge Valetti nous amène toujours là où on n'attend pas, dans une très belle préface qu'il a fait, parce que Jacques Michel est un metteur en scène qu'on avait aussi invité, mais qui n'a pas pu venir. Nous a demandé qu'on puisse lire sa préface, qui est dans une pièce qui s'appelle Domaine Ventre, on n'en parlera pas aujourd'hui, parce que toute la difficulté c'était de, dans cette œuvre, de choisir des choses qu'on puisse dire à un comédien, en dehors des tchatchas de Christian. Donc on ne pouvait pas prendre des pièces qui sont avec énormément de personnages. Le plus facile c'était de prendre des pièces des monologues. Mais nous y reviendrons tout à l'heure, parce que Chantal Morel, elle a monté une pièce avec beaucoup de personnages. Aussi les monologues. En attendant, je vais demander à Jean-François de nous lire un petit extrait de la préface de Jacques Michel qui donne un petit peu le contexte de comment Serge s'y prend pour écrire, comment on s'est construit. Parce que malgré tout, c'est très construit.
Serge Valetti, portrait chinois. Si l'on soumettait Serge Valetti au délice du portrait chinois, à l'inévitable question « et si c'était un animal ?», je répondrais sans hésiter « un crabe ». Car le bougre ne marche pas droit, et avec lui, soyez-en sûr, tout va de crabiole. Ça vire, ça penche, ça verse, et puis s'affiche le camp en sens inverse. La galaxie entière est un manège à chevaux. Dans un tel tournis universel, on n'arrive jamais à fixer la réalité, comme l'avoue son peintre amateur. Je n'arrive pas à fixer, à l'aide de pinceaux et de couleurs, la réalité que j'ai sous les yeux. Ça dérape, quoi, ça dérape. Très réjouissant, ça, qui exprime d'un même trait le pinceau et le réel. Le peintre est-il maladroit, ou le modèle mal droit? En tout cas, ça glisse vite. Beckett l'avait prophétisé. Au commencement était le malentendu, et ainsi de suite. Et Valetti poursuit, c'est parti sur une fausse piste dès le départ, c'est ça le truc, et après, eh bien, ça n'a fait qu'empirer. On se trompe dès le départ parce qu'on a raté le début. On cherche à comprendre, on échafaude des hypothèses, on suggère des pistes, on subodore des fausses pistes, on évente des pièges. Puisque tout est complexe, on refuse la simplicité. Puisque tout est retors, on s'abandonne à la complexité. Et tout se complique encore davantage sous cet amoncellement d'opinions rapides, de vérités adoptives, de solutions expéditives. Valetti est orfèvre en chinoiserie. Dans cette course folle de l'esprit à tenter de saisir le réel qui échappe, dans ce carrousel de suppositions et de supputations, le cerveau va plus vite que les mots. C'est un langage égaré qui cherche frénétiquement une issue de secours. Les mots se pressent, se bousculent, se chevauchent, s'entrechoquent, comme des casseroles cabossées attachées en vrac au pare-choc d'un bolide. D'où, dans ce fourbi singulier, les précipités d'expression, les courts-circuits linguistiques, les merveilleux coqs à l'âme, bouts de ficelle et selles de cheval. Il n'y a pas dans le cerveau d'espace typographique. Les mots ne se détachent plus les uns des autres. Valetti soumet son langage à une compression, à la manière de César le sculpteur. Compression des mots sous la pression de la vie. Et voilà pourquoi Valetti a choisi le théâtre, échappant ainsi à la formule écrite. Il jette des mots qui vont donner dans la confusion à des acteurs, dans la confusion des répétitions. Sur scène, on se débat dans un pêle-mêle de mots et d'émotions. Les personnages de Valetti essaient, pour rattraper leur retard, pour remonter la pente, de trouver les meilleurs raccourcis. On l'a compris, le plus court chemin d'un point à un autre c'est le détour. Et puisque le monde est tortueux, l'artiste mettra son point d'honneur à se tordre en tous sens. C'est dit, l'artiste est un contorsionniste, l'imitateur des tours et des détours du monde où même l'horizon est incurvé. Serge Baletti est un petit-neveu de Jacques Tati. Tenez, voici une scène que l'on pourrait croire extraite des vacances de Monsieur Hulot. J'ai aussi une photo de moi en train de monter le col du Lautaret à vélo, et je m'étais arrêté pour prendre la photo. Voilà pourquoi on ne voit pas dans l'effort. Et comme je voulais me photographier moi-même, il fallait mettre le trépied. Et comme là-bas tout est pentu, le trépied ne tenait pas, et c'était trop compliqué. Donc j'ai posé l'appareil par terre, et on ne voit que les roues du vélo, et on dirait que c'est plat. C'est une sorte de ratage complet, cette photo du col du Lautaret. C'est pour cela que j'ai une certaine tendresse pour elle. Je suppose que cela doit être la même chose lorsqu'on adopte un enfant mongolien. Tout l'art poétique de Baletti est là. Il réussit son ratage. Il part de la platitude, une photo de vacances, se contorsionne et revient ensuite à une monstrueuse platitude. Le col du Lautaret s'est affaissé. Mais ce ratage complet entraîne le rire, non la moquerie. Il appelle la tendresse, au contraire. Baletti aime les paumés de la vie, les perdeurs, les perdants, les perdus, ceux dont la vie reste floue, ceux qui ont été floués dès leur naissance. Ces gens-là n'arrivent même plus à se représenter ce qui leur arrive. Quand on a le plus grand mal à se photographier soi-même, comment voulez-vous qu'on parvienne à se représenter ce pêle-mêle, ce bric-à-brac insensé qui s'appelle sa propre vie ? Cependant, la pièce tourne, tourne, comme un manège qui emporte, chacun plus vite encore. Les personnages piétinent, mais la pièce roule. Ils voient leur élan stoppé, mais l'intrigue les emporte de ça, de là, en haut, en bas, dans un sens, dans l'autre. On dirait la foire, avec ses chenilles aux terribles sinusoïdes qui secouent les gogos, les projettent contre les parois, les entraînent dans un tourbillon de vagues, dans une vertigineuse oscillation. Et, à la manière d'Hitchcock, le manège, devenu fou sous sa propre accélération, explose dans un feu d'artifice d'étincelles et de flammes. Après l'explosion, tout n'est que silence. Le directeur du manège et poète forain, Baletti, a toujours relancé sa machine infernale dans d'incessantes sinuosités. Après tant de tours et de détours, il nous abandonne à l'improviste au bord du vide, de l'ineffable, de l'insaisissable, retrouvant ainsi, sans le savoir peut-être, l'énergie de la poétique chinoise, comme un dragon qui se précipite dans la mer. Presque tous les textes de Baletti se terminent au bord de la mer. Crabe ou dragon, je ne suis pas loin de penser que Serge Baletti est notre plus grand poète chinois. Ne soyons donc pas étonnés de trouver sous sa plume cet aveu. La somme des auteurs, chacun essayant à l'aide de 26 lettres toujours les mêmes de se hisser au-dessus des autres, par l'agencement simplement de 26 lettres, ça me tue. Je préfère à cet instant-là 150 000 fois plus le théâtre qui a à sa disposition un nombre incalculable de signes, plus proche du chinois. En un mot, si j'ose dire, j'aime tout ce qui est plus proche de la Chine.
Cette traversée vue par Jacques Michel qui a beaucoup travaillé les textes de Serge. Nous avons ici la chance d'avoir Jean Pamorel qui. qui a mis en scène. Une pièce qui s'appelle « Le jour se lève, Léopold », qui à l'occasion a été... Qui à l'occasion a été éditée chez Christian Bourbois. C'était la première pièce de Serge éditée. Et c'était la première pièce de Serge montée par quelqu'un d'autre et jouée par d'autres acteurs que lui-même. Et c'était en quelque sorte... quelque chose qui était extérieur à lui, qui existait à l'extérieur de lui, à l'extérieur de son écriture, et après son écriture. Donc Chantal, comment ça s'est fait, la rencontre? Je sais qu'il y a eu beaucoup quand même d'allers-retours épistolaires, parce que Serge est quelqu'un qui ne peut pas lâcher ses bébés comme ça, mais qui les lâche quand même. Épistolaires entre vous, parce qu'on a eu...
Oui, épistolaires, parce que moi j'ai demandé des choses, mais au contraire, je trouve qu'il... Enfin, ce bébé-là, en tout cas, il a lâché sans aucun problème. Absolument.
Voilà. Et comment ça s'est fait? Alors, c'est une pièce qu'il avait
Alors, ça s'est fait parce qu'à l'époque, moi, j'ai travaillé avec Brun, qui était une amie de Serge et une compagne de son travail. Moi, j'avais vu un texte à Avignon, tu sais, cuire à neuf. Non, à vous, non. Tu sais, cuire à neuf.
Œuf de linge.
De mon côté, je vais dans le bol, donc de m'aider, parce que je suis pas tout à fait sur le même. Et bon, voilà, je connaissais l'existence de Serge Valletti, parce que j'avais vu ce spectacle-là, mais pas plus que ça. Et donc, quand j'ai rencontré Monique, quand on a commencé à avoir un compagnonnage de théâtre ensemble, elle m'a. Donc, j'ai vu Volcan, que vous avez travaillé ensemble. Et elle m'a un jour donné le jour se lève Volcan. Et voilà, j'ai vu le jour se lève Léopold et j'ai tout compris. Ce qui m'arrive rarement avec le théâtre. Très très rarement. J'ai beaucoup de difficultés à lire le théâtre. J'ai l'impression d'être devant un système de hiéroglyphes qui ne dit pas ce qu'il veut dire. Qui est beaucoup de sous-entendus qu'on devrait comprendre parce qu'on est créé en complicité, je ne sais trop, enfin voilà, quelque chose qui est très très obscur. Donc j'ai beaucoup de mal à lire le théâtre, et là, j'ai tout compris. Compris dans le sens de. Ce même émerveillement, moi, qui me tombe dessus quand voilà, Christian rentre et dit des mots de Serge, j'ai cette sensation physique que le monde s'en met à l'endroit, que tout devient normal. Et voilà, et avec Léopold, c'est cette sensation-là que j'ai eue. Donc, tout simplement, j'ai dit à Monique que je trouvais ça beau. Et quoi. Et voilà. Et Monique, elle avait fait ça, elle m'avait donné ce texte parce que elle disait que Serge l'avait envoyé à plusieurs personnes. Et que c'était un texte qui était plus ou moins passé dans un tiroir. Et voilà, et l'aventure, elle a commencé comme ça. Voilà.
Et ensuite, c'est plus jamais resté dans les tiroirs, parce que je pense que plusieurs personnes, le jour se lève Léopold, mais celle qui a fait date, et aussi qui a fait date pour Serge, je pense, enfin, il le dit lui-même, hein, rester à sa place, c'est que tout d'un coup, une mise en scène et l'édition faisaient qu'il était qu'il existait ailleurs que sur une scène comme acteur ou protagoniste de ses propres spectacles. C'était, je pense que ça a été un tournant, je pense. Peut-être pour l'écriture, ça je ne sais pas.
C'est vrai que c'est des choses qu'on n'a absolument pas mesurées, absolument pas, puisque une forme de reconnaissance envers un texte, on se reconnaît, on sent qu'il y a quelque chose. Et donc on l'a fait le plus simplement du monde, le plus simplement du monde. Et on n'a absolument pas mesuré, mais tout ce que j'entends là qu'on dit sur Serge, ce n'est pas du tout des choses qui animaient le travail, animaient la réflexion, puisqu'on avait là enfin, à mon sens, pour une fois, un véritable outil pour faire du théâtre, c'est-à-dire pour qu'il apparaisse à ceux qui ont accepté de venir, de former une communauté devant les cours, devant la parole, on avait enfin apparition de l'humain, point barre, bien évidemment complexe, bien évidemment à l'envers, bien évidemment tout, bien évidemment machin, mais on avait enfin un outil pour faire de ça, non pas du commentaire, mais de la réalité théâtrale, de l'absolue réalité théâtrale. Moi, dans mes difficultés, devenait très 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 urgent que je puisse rencontrer une écriture comme celle-là qui permette que l'acteur sur le plateau soit une apparition de l'humain. Donc on n'a pas du tout investi ce genre de terrain-là, d'analyse de l'écriture sœur, d'analyse de son univers, de paroles sur son univers, de commentaires sur son univers. On était vraiment au début, donc voilà.
Bon, ce que tu veux dire, je crois, c'est que il y a eu une première lecture, mais tu as découvert le texte quand ça a été lu par les acteurs, je crois. Bon.
Ben non, sinon j'aurais pas décidé de monter avant de devenir acteur.
Non, mais je crois qu'il y avait quand même un moment où tu as eu besoin de l'entendre. Non ? Tu m'avais dit ça.
Besoin d'entendre ?
Oui.
Ah, mais ça, c'est déjà commencé.
Non.
Mais c'est vrai qu'on a besoin d'entendre. Quand on dit on a besoin d'entendre, on entend tout ce qui se bouscule dans cette œuvre, même quand quand il s'agit de monologue, c'est-à-dire que dans le monologue même, il y a cet emboîtage des choses. Alors Chantal a monté aussi deux monologues. Est-ce qu'on peut dire ça, que dans le monologue d'écrit Serge, il y a aussi dans Léopold, c'est plusieurs acteurs qui sont là. D'ailleurs, Serge lui-même en a parlé.
Oui, Serge Léopold a fait une autre interview.
Voilà, à propos de Léopold.
Je trouve une très belle idée. Question en général, pas posée aux journalistes. Donc, il a fait une petite auto-interview. Je vais lire juste un petit extrait. Ça s'appelle auto-interview.
Oui, je me souviens.
Ah, ben voilà. Ça va vous rafraîchir la mémoire. Question. J'aimerais maintenant que l'on parle un peu plus précisément de Léopold. Réponse de l'auteur. Vous voulez dire de ma pièce qui s'appelle Le jour se lève, Léopold ? Question. Oui. À la lecture, on a l'impression que ces gens, les personnages, parlent bizarrement. Réponse. Eh bien, sans le vouloir, vous venez vous-même de donner la réponse à votre question. Question. Comment ? Réponse. Eh bien, quand vous avez dit tout à l'heure, eh bien maintenant parlons de Léopold. Imaginez que quelqu'un soit entré dans la pièce où nous sommes au moment où vous prononciez cette phrase. Et jamais personne n'aurait pu penser que vous parliez d'une pièce de théâtre qui s'appelle « Le jour se lève, Léopold ». Et que vous étiez en train de faire un raccourci. Il aurait imaginé que vous parliez de quelqu'un qui se nommait Léopold. Moi qui suivais depuis le début de notre conversation, j'ai compris. Mais l'intrus, lui, n'a pas dans ses mains notre code. Eh bien, il se passe dans cette pièce la même chose, sauf que l'intrus, c'est le public. Au début, les spectateurs sont un peu déboussolés, ils ne comprennent pas très bien de quoi ces gens parlent. Mérédic appelle Bastien par un sobriquet qui est Pastille, parce qu'ils ont la médite de donner des noms à toutes les choses, comme par exemple le cola. Chaque fois que je fais lire la pièce à quelqu'un, il me demande « Mais c'est quoi le cola ?» Moi, je ne sais pas exactement ce que c'est et d'où vient ce nom, mais j'ai une piste. Il s'agirait d'un reste de colin, le poisson, qui serait enrobé dans du papier d'aluminium comme celui qui entoure le chocolat. C'est un reste du mariage de Calderson et Élise chez Madame Lauzin, où Léopold faisait l'extra, et il l'a donné à Bastien pour qu'il en ramène à la maison. Bien, mais ce n'est pas marqué dans le texte. Le spectateur qui est dans son fauteuil au théâtre, il ne va pas se lever pour dire « Attendez, dites-moi ce que c'est le cola ». Non, il voit deux types en train de parler de quelque chose qu'ils mangent et qu'ils appellent le cola. Par ce procédé, le spectateur va comprendre que les personnages ont un autre code qu'eux, et au bout d'un moment, il aura tout à fait oublié qu'il ne sait pas de quoi il s'agit, et il saisira que ça n'a pas beaucoup d'importance de savoir exactement qu'est-ce que c'est le cola. Il y a aussi une lettre, c'est ça, qui date du 3 juillet, qui je pense était adressée à Chantal Morin. C'est toujours sur cette pièce. Serge Valetti dit « J'aime le temps de la pièce ». Je veux dire, la manière dont elle avance, un peu en crabe de côté, dans le genre « Tiens, on tape, c'est lui ?»« Non, c'est Suzy. » Puis, Léopold arrive plus tard. Il a raté ce qui vient de se passer. Le spectateur a pris de l'avance sur lui. Pratiquement la première fois où le spectateur a de l'avance sur un personnage, un effet de complicité qui marche très fort. Mais il y a autre chose dans le temps de la pièce que je n'arrive pas bien à définir et qui est de l'ordre de sa construction. Et la seule comparaison que je peux faire, ce serait de dire que c'est le temps shakespearien. Est-ce que le fait qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes ? La ressemblance aussi de la troisième partie avec la scène de la souricière dans Hamlet. Mais ce n'est qu'une impression visuelle, l'effet que ça produit pour moi. Et là, ce serait stylisé. Ce n'est pas un hasard si Richard III boit et si Ophélie tourne folle. Tu n'es rien ni dedans ni dehors que du vent, tu parles, ça oui, mais... C'est fou, parce que c'est moi qui ai écrit ça. J'en suis témoin. Je le jure, mais je commence à douter. Car de voir avec les yeux des images qui se déplacent, ça produit autre chose. Je ne suis plus sûr que c'est moi. Ça me dépasse complètement. Je suis à l'extérieur de moi-même, spectateur de mon cerveau en mouvement. Et c'est un mélange d'horreur et de bonheur. comme la vie, quoi, en deux mots. Chantal, peut-être que ça sert à rien tout ce que j'écris là. Tu en fais ce que tu veux. En tout cas, c'est sûr que tu es sur la bonne voie.
Alors, est-ce que Chantal était sur la bonne voie, je suppose, parce que tout le monde a beaucoup parlé de cette mise en scène, beaucoup parlé de cette pièce, et que ça a été une sorte de naissance, parce que Serge était déjà grand et avait beaucoup de choses, était beaucoup de choses et était déjà fort connu. Et une espèce de reconnaissance ailleurs, ailleurs que où il était à ce moment-là.
C'était pas simplement une écriture que lui pouvait interpréter. Ça devenait une écriture au fait, au champ du théâtre, à nous tous. Donc. Mais je vais juste revenir sur l'histoire du cola, parce que ce que dit Serge dans l'interview par rapport au public, c'est exactement la même chose qui arrive à l'acteur. Parce que l'acteur, à un moment, il dit « Mais c'est quoi le cola ?» Et nous tous, en train de se dire « C'est quoi le cola ?» Alors, comme il est vivant, on va lui demander « C'est quoi le cola ?» Alors, il répond ça. C'est une indication. Mais sur d'autres choses, il répond « Je sais pas. » Il répond « Je me souviens de... » Il y a un moment, dans le début de Léopold, Meredith et Bastille... Donc, Meredith demande à Bastille qui c'est qu'il y avait au mariage. Et donc, il lui dit plein de gens et tout. Et il parle d'Henri. Il dit qu'il y avait Henri. Et puis voilà, la conversation continue. Et à un moment, le Bastille dit j'ai entendu à la télé, les Henri sont cons. Meredith dit plus que tout le monde a entendu. Il dit si, j'ai entendu. Les Henri sont cons, ça entache la personnalité quand on s'appelle d'une certaine façon. Et là, donc, Henri sont cons. Et donc, on avait demander à Serge, voilà, parce que... Et peut-être il est tombé à soir sur une émission de télé, et puis il parlait d'Henri Lecomte. Voilà. Donc on repart du petit voyage de questions à l'auteur vivant, et on retrouve sur le plateau de toute façon absolument démuni de la même façon. Parce que les choses ne résident pas dans leur explication, et surtout pas. Et c'est ça qui m'a, moi, beaucoup bouleversée dans la découverte de Léopold, c'est que justement, les choses ne résident pas dans l'explication. Ils ne peuvent en aucun cas témoigner de la vie qui les traverse par une quelconque explication. Que rien n'expliquera jamais l'élan de la vie et donc la complexité, voilà. Après ça, c'est vraiment autre chose. Et donc la question du cola, elle est tout aussi entière pour le public que pour l'acteur. Et là, l'acteur est convoqué à un endroit que je trouve assez rare, c'est l'endroit de son engagement, de son absolu engagement. Personne ne répondra à rien si ce n'est lui qui, cheminant dans le texte, acceptant la naissance de ce monde et de cet univers, acceptera d'en être une figure, et par cela même, de pouvoir répondre à des questions auxquelles on ne peut pas répondre, mais parce que lui, il aura fait la même chose, c'est-à-dire qu'il aura donné son corps, son imaginaire, sa voix, enfin tout ça, à une fiction. Et il aura été obligé, cette fiction, de la nourrir de l'intérieur, par lui-même, par sa présence, parce qu'il engage dans le théâtre. Et ça, c'est vraiment, enfin ça peut paraître banal, mais c'est vraiment beau. Pas qu'il y ait énormément d'écriture qui demande à l'acteur de dire présent comme ça. Vous savez, comme quand on est petit à l'école, on fait l'appel, puis on se lève, on est présent. Voilà, on est présent. On va être sur le cola.
Toute la difficulté de l'exercice qu'on essaye de faire ce soir, le parcours comme ça, hors du plateau, de revenir, etc. On ne peut pas s'empêcher, plutôt que de commenter, de dire « oui, ça existe, suivons ce mouvement-là de l'écriture, qu'elle soit dans le livre, j'assure que ça se lit aussi très bien. » On a envie de l'entendre, mais ça se lit très bien, c'était un vrai plaisir de lire tout ça pour préparer cette soirée. Mais on va entendre encore... parce que c'était difficile de choisir un extrait de Léopold dans la mesure où, excuse-moi Serge, du jour se lève Léopold, un extrait de cette pièce, dans la mesure où il y a tellement de... C'est tellement en action, une situation qui est tellement en action qu'on ne peut jamais l'arrêter. On ne peut jamais arrêter un moment de tous ces dialogues, de tous ces personnages. Donc on a préféré prendre de nouveau un monologue et de lire un extrait d'Au bout du comptoir la mer, qui fait partie d'un recueil qui s'appelle Six solos. Chantal a monté deux solos, je crois, Balle perdue, qui a aussi été fait en film après, et Marise à minuit. Mais là, puisqu'on avait un garçon, finalement, on a préféré lire un extrait de Au bout du comptoir.
Oui, j'ai eu la chance de faire une lecture déjà de Thèse de Cervelli tout cet été. Et c'est vrai que c'est la lecture des textes, une chose qui, avec l'écriture de Serge Valetti, me paraît une activité un peu trouble. Parce que c'est vrai que l'avantage de cette écriture-là, c'est que c'est à la fois quelque chose, en effet, qui est très construit, c'est un style, c'est un véritable style unique dans la littérature dramatique de notre période. Mais en même temps, j'ai vraiment la ferme conviction que c'est quelque chose qui est une matière à jouer absolument extraordinaire et que ça ne prend véritablement de toute sa force quand je l'ai vu, quand j'ai vu à la fois le jour de la Léopold et que j'ai vu Marise à minuit, par exemple. C'est vraiment des moments qu'on ne peut pas oublier parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe entre le public et les acteurs. Hein. Bien sûr, c'est de la façon qu'on monte, parce que peut-être qu'il y a eu des mises en scène moins réussies de cette écriture-là. Mais c'est vrai que la lecture me paraît très, très petite par rapport à la nécessité véritablement de l'incarnation et du jeu. Voilà ce que je voulais dire. Donc c'est un extrait, en effet, du comptoir de la mer. Le mardi 12 avril, vers 9h du matin, j'entends du bruit dans le couloir de l'hôtel. Juste là, on le voit d'ici. Un remue-ménage. Moi, qui ne m'endors habituellement qu'à l'aube, se réveillant sur soi, me mit en colère, mais je n'y prêtais qu'une attention distraite. Et ce qui, on le verra par la suite, fut la plus grande erreur. Qu'est-ce que je disais? Je me laisse entraîner par des histoires qui me rentrent dans le cerveau, qui ont toujours la peine à en sortir. Il en reste toujours des briques, des fragments, des débuts, des fins, parfois indiqués par le tout seul. Je m'en sers pour mon numéro. Mais des fois, je suis sec. Ça ne vous arrive pas d'être sec comme ça? Tu es sec. Tu vois, tu es sec. Je suis sûr que même les gens qu'on croise dans la rue qui ne vous connaissent pas, eh bien, ils sentent que vous êtes sec. C'est un réflexe de voir quand on est sec. En plus, tous ces cons qui passent au rappel à la plage, je t'en foutrais, moi, connard. Oh, ce que vous avez été bien, monsieur Stéphane, hier soir. Et quoi, j'ai été bien? Plus minable comme numéro, il n'y a pas. Non, mais sans rigoler, il n'y a pas plus minable. J'en connais pourtant des minables, mais comme moi, il n'y a pas plus minable. Sans rire. Même l'année où ils avaient engagé le ventriloque, avec le canard qui avait plein de poils. Ma parole, tu voyais l'élève qui bougeait. Eh oh, mon con, c'est pas du boulot, ça. Ils mettaient une cigarette. Parce que ça, c'est un truc qu'ils ont, ça, de mettre une cigarette ou une pipe ou je ne sais pas quoi pour s'empêcher d'ouvrir la bouche. Eh bien, lui, la cigarette, elle tombait tellement il bougeait les lèvres. Tu vois le tableau? Elle tombait, je ne le croyais pas. Tu vois un ventriloque avec un canard hideux, que même sa cigarette, elle tombait tellement il n'était pas ventriloque. Eh bien, il lui faisait un tabac. Le chic chez les ventriloques, c'est de ne pas bouger les lèvres, bien sûr, sinon tout le monde est des ventriloques. Et bien sûr, sans cacher la bouche par des artifices. C'est ça, le chic. Mais il y en a, ils se coincent la bouche en serrant quelque chose entre les dents. Ça ne se voit pas. Ça, c'est le un peu moins chic, mais chic quand même. C'est chic. Mais le vrai chic, c'est avec rien. Avec le ventre, vraiment. Et c'est rare. Il y en a peut-être un ou deux au monde. Et bien, même le dernier des ventriloques, il fait un tabac. Alors, je vais aller me fatiguer. Il parle, il rentre complètement sous de la plage. 12 heures de soleil à cuire. Tu les vois devant toi que presque toi aussi tu bronzes, rien qu'à les regarder, tu voudrais te casser le tronc. Pétard. En plus, il faut se renouveler. Alors forcément, au début, mon numéro, il était valable. Mais à force, j'ai sombré dans la facilité. Le succès facile vous détruit le véritable artiste. C'est ce que je dis toujours. Le succès facile détruit le véritable artiste. Je dis toujours ça. Les gens ne comprennent pas. Je passe donc l'après-midi à répéter en vain un numéro idéal de comique muet, une sorte de sommet de l'art dramatique. C'est une sorte de comique télépathique. difficile à expliquer. Sans un mot, je ne bougerai pas, mais ça se passerait dans la tête. Je rentrerai comme ça sur scène et il ne se passerait rien. Ce serait du comique muet. Pas du mime, non, du comique muet. Le public rirait tout seul, télépathiquement. Je répète tous les ateliers. Pendant qu'il se baigne. Jean-Jacques, viens voir comme elle est bonne. Ne t'éloigne pas trop. Vous avez mangé depuis combien de temps? Si on se mettait là. Pauvre Jean. Bon, alors, je rentre en scène, comme chaque soir, après avoir traversé les coulisses, les petites coulisses où la poussière s'est accumulée, comme on dit, des accumulateurs, tellement il y en a. C'est atroce. Derrière le rideau qui bouge, il bouge. Pourquoi il bouge? À cause de la fenêtre de la loge du ventriloque. Elle a le clapet qui ne ferme pas bien. Comme il a la manie de, par contre, fermer sa porte à double tour, parce qu'il a peur qu'on lui pique son canard. Que je vais te dire, on te donnerait son canard, qui n'en voudrait pas pour donner à l'abbé Pierre. Non, mais tu le verrais, le canard. C'est irracontable, le canard. Non, mais sans blague, l'abbé Pierre, si tu lui envoies, il te le renvoie à la gueule. Parce que d'abord, il ne voit pas que c'est un canard, le ventriloque, quand il n'a pas la main dedans. C'est tout mou, il a un corps de poil. Mais c'est immonde. Une sorte de toque en fourrure sale qui ne pourrait pas servir de chapeau. Voilà, indescriptible que même l'abbé Pierre en aurait peur. Tiens, il ouvrirait le paquet, chez lui, bien tranquille dans sa sacristie. Il ouvrirait le paquet sur la toile cirée. Il garderait la ficelle, le papier, il le plierait en quatre pour envelopper ce qu'il a enveloppé. Et il regarderait ce tas. Avant qu'il sache que c'est un canard, il attend de faire trois fois le tour de chez lui, le pauvre. Bref, sous sa porte, quand il la ferme, il reste un petit espace qui, lorsqu'il est à l'intérieur, laisse passer un ray de lumière. Mais assez grand tout de même. Et oui, il faut qu'il se prépare, qu'il enfile le canard. Et oui, c'est le mot, enfiler. J'en peux plus. Avec la main, le canard, enfin, le manchon à poil. Eh bien, il oublie toujours de fermer la fenêtre, qui, à sa décharge, n'a pas un système de fermeture très adéquat. Le rideau bouge, il frémit, saloperie de canard. De l'autre côté, il se taise au fur et à mesure que la lumière de la salle descend. La musique, inversement proportionnelle, monte, elle. C'est calculé. Je suis moi-même dans le noir, rosissant, comme dans un coucher de soleil qui durerait toute la vie. Sincèrement, je pense que pour moi, c'est le meilleur moment du spectacle. Mais il faut bien venir interrompre cet instant de charme et de vide pour pénétrer dans le rond de lumière qui cercle le rideau. La chaleur de cet instant est magique et insoutenable.
À l'heure où les avions traversent le ciel à plus de 300 km/h, il y a encore des gens qui font les clowns. Vous trouvez ça normal, vous? Ils apprennent par cœur les textes alambiqués pour les ressortir comme des matuvus devant un parterre de moins en moins médusé. Vous savez comment ça s'appelle, ça, à l'époque de la machine à tricoter électronique? Ça s'appelle le théâtre. Ils, les méchants, hein, sont enfermés dans des asiles payés par la collectivité publique comme si tu étais un médicament à prendre en cas de danger. Et le danger est là, qui rôde tout autour. Je le vois arriver, le danger, avec ses grandes dents. Je l'ai dit? Je ne l'ai pas dit? Alors je le dis. Je suis acteur. Enfin, j'acte. Enfin, je jacte. Oui, bon, je jacte. À la lumière des projecteurs en biais, tu renais tel un lutin. À la lueur d'une bougie, tu es toujours là, tapis dans ton coin. Tu me fais marrer. Tu me fais marrer. Quand le dernier théâtre sera fermé, je pourrai enfin partir à la pêche. En attendant, je les regarde et je les aime. Dans les asiles, il y a les infirmiers et les malades. En tant qu'infirmier, je me sens de plus en plus malade. En tant que malade, pourquoi? Pourquoi vouloir quitter cet endroit où tu vis à l'abri? Tu crois que c'est mieux ailleurs? Ben vas-y. Va à l'école. Et comme disait Confucius, c'est celui qui dit que c'est confus qu'il est. Le principe, en fait, de l'écriture valétienne, c'est que c'est organisé comme les neurones. Vous savez ce que c'est les neurones, hein? Les machines, les trucs, là. On en a plein dans la boîte à crâne, là, à l'intérieur. Dans le cerveau, là, à l'intérieur, là. Vous ouvrez. Enfin, faut pas ouvrir, hein? Enfin, vous ouvrez. Hein? Vous trouvez les neurones, hein? Ils sont tous reliés entre eux par des synapses, quoi. Et ils communiquent tous entre eux.
Bon, mettons, il y en a un, il est pour l'œil, et l'autre, il est pour l'oreille. Voilà, et je vous dis que c'est un peu, quoi, comme nous. Mais il y en a beaucoup dedans, hein. Mettons, vous levez les yeux, vous voyez la nuit, avec les étoiles. Hein. Eh bien, les neurones, c'est pareil, il y en a autant. 3000. 3500, peut-être plus. Mais nous, on ne peut pas se représenter la totalité, nous. On peut représenter qu'une partie, nous. Eh bien, c'est une représentation d'une partie de 52 neurones avec les synapses qui communiquent entre eux, le tout dans un liquide gluant. En effet. À l'hôpital, ils m'ont mis un drain dans le crâne pour voir les neurones qui coulaient. Il y a un grand type avec une voix de castafiore qui m'a pris par le bras et qui m'a dit « On va vous mettre un drain !» Oh, que te dis-je, il y a un quoi ?« Un drain !» Il m'a dit. Et par où vous allez me le mettre, le train? Parce que vous avez compris le train, quoi. Il va me mettre un train, lui, dans la tête, il va vous dire quoi? Pour voir si j'ai un bon passage à niveau, mais je lui dis « Regardez-moi de l'extérieur, pas en niveau !» Votre niveau, mon ami, votre niveau est à zéro, votre niveau, suivez-moi sans faire des histoires. Tu parles, mais c'est moi qui ai l'habitude de faire des histoires. Mais c'est vous, avec votre Micheline en plastique, là, qui n'est même pas rouge et blanche. Ils ont voulu m'attraper, mais tu parles. J'ai pas rendu le train, moi, hein, je suis un cabord des buffets de gare, moi. Hein. Vous connaissez le coup du rendez-moi? Je connaissais pas le coup du rendez-moi, j'ai déjà fait le coup du rendez-moi. Voilà, il faut un billet 500, un vrai. Alors vous arrivez le matin au buffet de la gare, hein, et vous nous payez avec un billet de 500, un vrai, hein, sur lequel vous avez fait le marque au crayon, hein, par exemple votre numéro de téléphone, ou je sais pas quoi. Hein, et un quart d'heure après, vous arrivez à normal, genre comme nous, hein, pas déguisé. Et là, vous consommez un café au comptoir près de la caisse. Et là, vous payez avec un billet de 100. Et le type, il vous rend la monnaie. Vous avez compris le truc, hein? Vous l'avez compris là, le truc. Rendez-moi. Oh. Putain, mais rendez-moi. Je voulais comme un putain. Mais putain, mais rendez-moi. J'ai donné un billet de 500. Vous vous arrangez pour qu'il y ait du monde, hein, des légionnaires, de la police, des Allemands, n'importe quoi. Vous avez compris le truc. Ah, la caisse, le billet de 500, il ne va pas me le rendre. Mais vous arrêtez la populace, quoi. Je... Avec mon billet, mon numéro de téléphone dessus, mais vous lui mettez le souk à sa caisse à la con, au débiteur de demi, quoi. Tiens, appelez le numéro, je vous le dis. Appelez, vas-y. Oh, putain, c'est moi. Votre téléphone qui sonne dans votre poche. Escroc ! Vous hurlez. Tout le monde, si c'est bien fait, mais ça faut bien le faire. Hein. C'est tout le buffet de la gare qui hurle. Putain, mais rendez-lui ! Rendez-lui ! Ah, dites une fois, ça arrive qu'ils l'ont pendu au plafond, hein. Les légionnaires, le débiteur. Ça, c'est le coup du rendez-moi, hein, tu vois. Tout est dans le déguisement du matin. Hein. Oh, et quand j'étais plus jeune, j'arrivais même à me déguiser en femme. Alors là, c'était le sommet. Maintenant, je suis un peu empâté quand même. Hein. Oh, elle était, je m'étais même déguisé en indien de l'Amazonie. Mais le principe du rendez-moi, c'est qu'il faut réussir le premier déguisement du matin. Parce que le débiteur, il faut qu'il se souvienne que c'est pas vous qui êtes venu le matin avec un billet de 500. Hein. C'est pour ça qu'il faut se faire remarquer, bon, comme ça, il passe un peu pour dingue le débiteur. Et non, dites non, dites non, excusez-moi, vraiment. Celui-ci, c'est ce matin, un indien de l'Amazonie qui m'a donné. De quoi? Avec mon numéro de téléphone dessus? Mais vous n'avez pas autre chose à inventer, non? Et pourquoi pas le talent et travailler dans la main quand vous y êtes là? Vous savez compris, il se passe pour fou, hein. Et puis c'est à lui qu'on lui met le drain dans l'oreille. Alors qu'il essaie de me mettre à moi, le drain dans l'oreille. On verrait, quoi. Oh, mais, oh, dites, un jour du rendez-moi, je me suis déguisé en écossais. Quoi. Vous avez déjà essayé de vous déguiser en écossais? Il faut une robe jupe. Bon, vous avez une sorte de courant d'air qui vous remonte par là-bas. Non, 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 parce qu'en plus, il faut rien mettre dessous. Quoi. Oh, non, 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 c'est que vous risquez l'angine des trompes de stache. Hein, en plus, si vous courez, mettons, vous mettez à couper, hein, vous arrivez. Et après, je sais comment ça s'appelle, les trucs qui pendent, qu'on en a deux, là. Et oui, le truc qui pendent, qu'on en a deux, là, ça a des poils, ça fait clac-clac, là. Ouais, on comprend que les écossais, ils fassent du bignou, hein, c'est la même chose. Mais oui, ça, c'est le truc, là, quand on se baigne, ça devient tout rikiki. Rikiki, c'est ça, c'est rikiki, c'est ça, c'est rikiki, ça, c'est rikiki. Mais tout ça, c'est en dessous du nombril. Vous connaissez le nombril, hein? C'est là où sort le cordon. Vous avez lié un cordon, hein? Quand on est venu au monde, on a tous été livrés avec un cordon, hein. Il y a un abruti qui l'a coupé, comme tout le monde. Heureusement, dites, heureusement, sinon j'aurais toujours ma mère à côté, quoi. Mais c'est tout qui part de dessous, là. Deux sortes de petits bignoux, quoi. Un mohair. Une sorte de mohair, hein. Le mohair, c'est comme le velours côtelé. À part que... C'est pas côtelé, c'est pas du velours. C'est du mohair, quoi. Ça fait clac-clac, quoi. Mais bon, j'avais bien la même au milieu de 500 pour faire le rendez-moi, tu parles. Il y a eu un coup de vent, la rue de Jour, c'est tout envolé, avec tout le cramoisi à l'air. Ça a failli faire une émeute, tout ça, pour des petites boulettes de rien. Vous croyez que les gens sont tout de même un peu les exagérateurs quand même, c'est pas vrai? Pas vrai, maman?
J'ai une maman là, tout à l'heure. Elle a disparu. Non, c'est pas ça. Je vais suivre mon cordon, elle doit être au bout. Maman ? Chantal ? Encore plus aujourd'hui.
C'est quelque chose.
C'est un euro.
Un euro.
Non, j'écris pour Christian.
Christian, d'accord. Donc, effectivement, là, on voit que quel corps ça peut prendre quand c'est interprété par rapport aux lectures qu'on peut faire, qui était aussi une façon d'entrer dans l'œuvre. Et je vais me tourner vers Eric Mousselineau qui, lui, monte une pièce qu'on va voir bientôt donc, à Chaillot, au mois de mai, qui s'appelle Le Nègre au sang. C'est une pièce où il est question de théâtre et d'acteur. Tu peux nous en dire un peu plus ? Avec ce titre mystérieux. Ce titre mystérieux, Le Nègre au sang, c'est très bizarre.
Oui.
De quoi s'agit-il ?
Il est question de théâtre et d'acteur, pas comme vraiment Mazzucchini, mais c'est autre chose, quoi. C'est plus, on va dire, comment on peut dire, c'est moins en liberté que ça. Hein. Ils sont plusieurs, ils sont quatre.
Quoi que.
Non, si, si. Non, c'est écrit, tout est écrit au départ. C'est Le Nègre au sang, c'est le titre de la pièce, c'est l'histoire qu'un des acteurs finit par raconter à la fin, que Jean-François lira peut-être tout à l'heure, c'est ça ?
Oui.
Ouais. Il y a 4-5 personnages, c'est ça, je crois. 4 acteurs et un gérant.
Ouais.
Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, c'est pas comment dire ça, quand même. Mon rapport à ça, il est celui d'un acteur. Moi, j'ai commencé par jouer, surtout.
C'était une pièce avant,
une autre pièce. Un texte de Serge. Léon Sénat, non. C'est par rapport à Serge, un texte qui s'appelait Garmicha. Et mon rapport à Serge, il est celui d'un acteur, il est celui de son écriture que j'ai commencé moi à jouer et à dire. Quoi. Et j'aimerais dire que Le Nègre au sang, c'est pour moi comme une suite, comme un écho, en fait, à ce que j'ai fait, moi, avec Garmicha. J'ai eu envie de prolonger la conversation, enfin, de prolonger l'histoire avec Serge, sans qu'il le sache, même peut-être à mon insu aussi, mais du coup, ce Nègre au sang est monté à la surface, comme ça, parce que j'avais pas mal de textes de Serge chez moi, que je n'avais absolument pas lu au moment où je travaillais sur le Garmicha, et puis je me suis mis à lire après, et puis celle-là, d'un coup, je suis tombé dessus, et elle avait quelque chose, elle contenait quelque chose qui, moi, me touchait beaucoup, et comme j'ai eu l'opportunité assez rapidement de pouvoir la faire, c'était de miracle, un peu comme ça, je n'ai pas eu à batailler beaucoup, c'est pas normal. Et j'ai eu envie de continuer à travailler sur sa langue, sur son écriture, mais en regardant et en écoutant plutôt qu'en faisant. Ce qui est un drôle d'endroit d'ailleurs, ce qui était un drôle d'endroit à ce moment-là pour moi, parce que effectivement ça parle d'acteurs, disons pour dire en gros, de tentatives comme ça, de remplir le truc parce que tentative sur tentative pour qu'il se passe quelque chose, pour qu'il finisse par se passer quelque chose. L'acteur abandonné dans un théâtre comme ça, on peut dire livré à eux-mêmes, voilà. Et qui finissent quand même par raconter plus ou moins, on va dire, ce qui leur importe, quoi, les histoires qui ont à voir avec ce qu'ils sont eux, quoi, plutôt d'essayer de fabriquer des moments absurde. Donc voilà, moi ce qui m'intéressait c'était ça, c'était Ce qu'on a essayé de faire, c'est ça. Je ne sais pas, c'est compliqué, mais c'est entre une chose légère et puis une chose plus grave, quoi. C'est assez confus, ça.
Mais c'est vrai que la pièce, ce sont des acteurs qui sont dans un théâtre, pas très bien, et ils ne savent pas trop bien ce qu'ils doivent y faire. Il y a des tas de propositions qui fusent, et à un moment donné, ce qui donne le titre à la pièce, il y a ce passage qui est très très beau, du nègre au sang, que Jean-François va nous lire, et puis on peut en parler.
Oui, donc c'est le personnage de Watson qui parle, donc c'est des morceaux, parce que c'est tout se tient à l'écriture de Serge Baletti, je veux dire, ça devient... une chose, il ne faut pas penser à la tête de prendre cet extrait, mais bon, on essaye. Donc, moi, j'arrête tout. C'est la vie, ça, quand on arrête tout. Tu comprends? Quand tout est arrêté, c'est fini. Et tu es là, comme une loque. Il y a bien un moment où tout a fini. Tu vois ce que je veux dire? Le moment, là, tu sais, où vraiment, presque quoi, là, comme on dit, viande froide, c'est ça, viande froide. Le type blanc cadavérique, allongé sur son brancard pour une raison ou pour une autre. Mais bien sûr, ça arrive. Ça, c'est sûr. C'est même la seule chose un peu sûre. Même si ça ne fait pas de bien de s'en entendre parler. Tiens, ça me fait froid dans le dos. Donc, quelque chose de sûr, comme un roc, qui serait la fin, et qui pourtant ne pourrait pas être quelque chose à quoi on se raccrocherait. C'est le négro sang. Tu ne veux plus rester où tu es, tu descends les escaliers chez toi en pensant que vraiment c'est la dernière fois. La fin, je te dis la fin. Et tu vas te voir marcher dans la rue en pensant à tout ce que tu laisses. Que ça tienne peut-être de ne pas emporter ceci ou cela. Et que ce sont des choses qui de toute façon ne pourraient être d'aucune utilité, mais c'est comme ça. Et donc il est vers 2h du matin, la rue est noire et tu as visé un bar éclairé. Il y a une terrasse où tu vas rentrer pour prendre un café au comptoir, et là... tu vois, le nègre au sang. Il est assis sur une chaise, il regarde au loin, peut-être au bout de la rue, vers le bord du fleuve, car tout se passe au bord d'un fleuve. Et ta première réaction, c'est de dire, voilà le nègre au sang. Et au lieu de prendre le café au comptoir comme un voleur, tu t'assieds à 1 ou 2 mètres de lui. Et tu as vu qu'il était noir. Et pourquoi au sang? Parce qu'il a le pantalon taché de couleur rouge et la chemise blanche aussi. Tu regardes toi aussi les bords du fleuve comme lui. Et tu penses que tu es comme lui. Sauf que toi, tu ne souris pas. Alors que lui, sourit. Alors que lui, le nègre au sang, ne devrait pas sourire. Et puis, en regardant mieux, tu t'aperçois que ce n'est pas du sang, mais sûrement des taches de vin rouge. Et tu, intérieurement, souris un peu de ta méprise. Et il y a quelque chose dans ta méprise qui te ramène à la vie. Car si même le nègre au sang sourit, tu te dis, c'est que ce n'est pas la fin. Voilà donc ce qui, en étant en même temps le début d'une histoire qui fait que tu rentres chez toi pour écrire, la clôt. C'était mon histoire, et ça s'appelle le nègre au sang. Mystérieux.
Donc en fait, pour avoir la clé de l'énigme...
Il va falloir
attendre jusqu'au mois de mai.
Non, mais il n'y a pas d'énigme, évidemment. Ça raconte. Je sais pas. C'est difficile toujours d'essayer d'expliquer pourquoi ça.
C'est pour ça qu'il vaut mieux aller voir.
Pourquoi ça me touche ou quoi. Je sais pas, c'est compliqué. Je trouve ça. Enfin, moi, ça me touche beaucoup, mais. Voilà, c'est compliqué. J'ai quand même fait la publicité, quoi que ce soit, je trouve que. Évidemment, c'est une petite histoire qui arrive à la fin de la pièce. Comme souvent, chez Serge, c'est la fin qui dit beaucoup, qui éclaire, d'une certaine manière, les agencements plus ou moins compliqués, plus ou moins touffus, je ne sais pas quoi, du début ou du milieu. J'aime beaucoup ça parce que je trouve que c'est un pendant à la fois un petit peu comme ça... léger et grave à la fois. Je ne sais pas comment il fait pour obtenir ça, cette chose comme ça, qui est constamment, qui reste comme ça à la surface et qui raconte toujours ce qu'il y a un peu en dessous, quoi. Je trouve que cette histoire-là, elle parle de ça, elle parle du moment où on pourrait basculer vers une chose définitive et où on se relève à cause ou grâce à l'image qu'on a eue de soi en train de se laisser aller, je sais pas comment dire, quoi, ça. Voilà, moi, ça me raconte plein de choses là-dessus, quoi. Et je trouve pas ça dans beaucoup d'écritures. Et voilà pourquoi ça m'a plu d'essayer de faire entendre ça, quoi.
C'est vraiment, ça pourrait basculer d'un côté comme de l'autre. Et,
ouais.
Il y a cette espèce d'exercice d'équilibrisme de la parole qui est assez intéressant dans cette écriture. Il y a une autre chose qui nous avait frappé aussi quand on a travaillé avec Jean-François, c'était l'engagement, Serge le dit lui-même quelque part, que l'art théâtral réussissait à contaminer un petit peu, pas forcément le monde, mais le temps d'une soirée, ça rejoint aussi ce que disait Chantal, comment il y a cet engagement immédiat avec ces personnages-là dans un monde tel qu'il est aujourd'hui, et comment, quelque part, dans ce monde tordu, on peut dire soit que Serge est tordu, soit qu'il est un redresseur de tort, en quelque sorte. Et il y a un petit texte qu'on aime bien avec Jean-François, qui est une préface, encore une préface, mais une préface qui est écrite par Serge Valetti dans une pièce qui s'appelle « Si vous êtes des hommes » aux éditions de la Talente.
Je n'ai pas la force de faire de la philosophie. Je n'ai pas la force de faire de la politique. Je n'ai pas la force de ne pas regarder la télévision. Je n'ai pas la force d'aller soigner des blessés. Je n'ai pas la force d'aller m'occuper des sans-abri. Je n'ai pas la force de résoudre les problèmes de notre monde. Je n'ai que la faiblesse d'écrire une pièce de théâtre dans laquelle ces forces s'entrecroisent. En fait, donc, ce que ça donne, c'est une espèce de cyclotron mental. Les chocs entre les personnages animés par ces différentes forces font apparaître non seulement d'autres personnages, mais aussi les forces et les faiblesses qui les animent.
On avait envie aussi de faire entendre une pièce qui s'appelle Papa, qui est là, carrément, très d'actualité, je pense aussi dans le contexte du Sud, mais pas seulement du Sud, hein, mais du Nord.
National,
voilà.
Et qui a été mise en scène la première fois par Pierre Ascari, qui est là.
Donc tout à l'heure, on parlait de maman, on a parlé de papa. Et on va faire un extrait, peut-être Jean-François nous rappelle le contexte, parce qu'il faut
s'est passé. La pièce, d'ailleurs, ne s'appelle pas pièce, si je puis dire. Ça s'appelle Une folie en 5 actes. Ça se passe dans un hôpital, pour un type de malade assez particulier. Il y a des personnages qui sont à l'intérieur, des malades, des gens tout. Et il y en a un qui s'appelle Papa. Il a une particularité, il a un œil de verre, enfin, il n'a qu'un seul œil, vraiment. Il a des filles, il a une femme qui est partie et qui pose nue dans les magazines. Et il a un adjoint, l'extrait, je veux dire qu'on prend trois personnages, donc un adjoint qui s'appelle Billon, papa, et un personnage qui entre et qui s'appelle le fou. Le fou. Ah, c'est vous! Je vous reconnais, je vous ai vu dans les photos, les magazines. Je me disais, c'est pas vrai, qu'est-ce que vous ressemblez? Vous connaissez l'histoire mythique qui faisait toujours ce qu'il voulait? Non? Papa? Non. Le fou. Eh bien, à la fin, il voulait mourir. Eh bien, il est mort. C'est comme ça, il a fait ce qu'il a voulu. Ce que... Oui. Vous êtes gros et laid. Qu'est-ce que vous êtes laid? L'adjoint. Dit, tu permets, faut pas parler comme ça. Il est fou, lui. Le fou. Oui, c'est ça, je suis fou. Je cherchais depuis tout à l'heure, je me demandais ce que j'étais. Il y a un type qui passe à côté de moi, il me dit « Mais il est fou, lui !» Alors du coup, j'ai décidé, sur le champ, in petto, de devenir fou, et j'y suis arrivé. Regardez d'ailleurs, j'ai pas une tête de fou. Papa, tu débarrasses au plancher. Qu'est-ce qu'il vient foutre au milieu? Pas besoin de ces histoires, non? Le fou. Vous avez tort, Il faut toujours avoir un fou à côté de vous. Vous ne savez pas. Sinon, comment vous allez faire? Puisque vous êtes un peu chef maintenant, c'est ce qu'on dit dans la coterie. Alors je me suis dit, moi-même, voilà un type valable, il est tout seul, mal conseillé, par ses filles, qui sont des salopes, puisqu'il le dit lui-même, va avoir besoin d'un fou. C'est couru. Alors me voilà. Papa, voyez pas que vous me dérangez, j'étais en train de faire ma cour. Le fou, vous comprenez rien à rien. À rien. Ça vous fait parler? Vous avez sûrement besoin de moi. Pareil, vous faites des listes. On pourrait faire des choses ensemble. Je vous explique pourquoi vous avez besoin d'un fou. Parce que comme ça, je vous dis les choses qu'il faut faire et puis vous, vous n'avez qu'à faire le contraire pour avoir raison. Puisque je suis fou. C'est pas sensé comme truc. C'est pour ça que je suis utile. Vous suivez le raisonnement du type qui est fou? Papa, tu sais que tu me fais rire, toi, le fou. Eh oui, mais c'est ça, les fous, ça fait rire. Mettons, je dirais, il faut que tu grossisses un peu, gros bouffé, gros porcinet. Tac, vous, vous réfléchissez, et puis mon pote, ni deux, ni deux, je me marre. Tu te dis, en suivant le raisonnement, ben, il faudrait que je maigrisse pour faire le contraire de ce qu'il dit, le fou. Tu sais dit, bouffé? Et alors, tu es sûr d'avoir raison. C'est le système, par A plus B, pas compliqué. Tout le monde devrait avoir un fou. Une moitié du genre humain sensé, l'autre folle. Vous, vous seriez le sensé, et moi, le compère étrange, le noir qui vit tout de travers. À nous deux, le monde est à nos pieds, et vos filles dans mon lit. Parce que comme pute, elles se posent un peu là. En plus, j'en ai plein d'amis qui sont médecins. Ils vous soigneraient votre tendance à toujours renifler. Vous savez d'où ça vient? Papa, non, c'est depuis tout petit, je renifle, même ma mère ne comprenait pas pourquoi. Le fou. Eh bien, ça veut peut-être dire que ça sent le roussi. Alors, le docteur, il fout le feu à la maison, du coup, tout le monde renifle, et du coup, c'est le système. Vous êtes plus anormal à renifler tout seul, puisque tout le monde renifle. L'astuce, quelle est belle l'astuce. Il comprend pas, bourricot? Papa, tu me traites pas de bourricot. Le fou. Mais non, puisque c'est l'inverse, abruti, il comprend rien, tu la veux cette morbale? Papa, tu sais que tu me fais rire, toi? Le fou. Je sais. Vous connaissez l'histoire de la machine qui voulait pas reculer? Oh putain, elle est bonne. C'était pas une machine, c'était un âne. Les ânes, ça marche à l'envers. Parce que ça a une tête de cul. C'est connu. Elle est bonne? Vous trouvez pas? Tête de cul marche à l'envers. Vous voyez? Pourtant, c'est une de mes préférées. Alors, c'est quoi les disques que vous faites? Il y a des musiques? Quel genre? Mais comme je pourrais être conseiller, il suffit que vous demandiez. Papa. Vous êtes du genre à vous incruster, comme mes filles, vous, ma parole. Quel bagou il a, ce tordu. Le fou. Et la tronche de Saint-Loup, là, adjoint, il est adjoint de quoi? Il commence par me dire, je suis l'adjoint. Et tu l'as vu, celle-là? Il était en train de tenir sa bistouriquette dans les mains, soi-disant en train de pisser. Tu parles, regardez les photos porno dans les chiottes. Et vas-y! Parce que je rentre 5 secondes après, je me retrouve blanchi comme les saints-pères. Et après, c'est les autres qui disent que je suis fou. Papa, qu'est-ce qu'il regardait? Quoi? Le fou. Les photos de votre femme à poil. Papa, c'est pas vrai, monsieur Billon. Le fou. Tiens, il fait une trombine, l'adjoint. Oui, de votre femme à poil. C'est pas de la folie, là? Pour une fois que je dis la vérité. L'adjoint. Il est barre, c'est pas vrai, c'était pas votre femme. Le fou. Mais c'était à poil. Et quoi c'était, peut-être? Un magazine sur la vie des loutres? Tu me prends pour quoi, saleté? Papa, l'adjoint. Oh, mais ça va pas, ça. Dis, je te paye pourquoi? Tu es adjoint, c'est pas pour te branler dans les chiottes. Le fou. Il se branlait, c'est ça, je cherchais le mot. Il se branlait dans les chiottes, l'adjoint. Comme le pauvre Scalbert. Papa, qu'est-ce qu'il parle de ça, toi? Comment tu le sais? Le fou. Mais tous les fous le savent, ils savent tous les fous. Puisqu'ils ont qu'à dire l'inverse, tiens. Tiens, sire, l'adjoint Billon. T'as compris sa douleur? Ben. Et le cousin d'Escalbert, il va mal. Vous savez ça, il va mal. Les malades. A attrapé une bronchohépatite. Ça pardonne pas. Je me demande ce qu'il leur filait ça. Peut-être qu'avec son héritage, vous allez pouvoir encore faire des listes. Qui sait? Parce que vous avez hérité de son cousin, moi je trouverais normal que vous héritassiez de lui. Sinon, ce serait pas normal. Non. Papa, faut pas exagérer. Le fou. Eh oui, mais vous vous arrêtez en si bon chemin. Et pourquoi pas hériter de tout le monde en tant que père de la patrie? Faire remplir des testaments comme des circulaires. C'est une idée, ça. Il n'y aurait qu'à signer en bas et vous hériteriez de tout le monde. Vous auriez qu'à obliger les gens à signer, ça serait simple. Une bonne combine. Il suffirait de donner 10% au docteur En général, c'est des corrompus, des docteurs, tous, sans exception. Je le sais parce que chez moi, ils mettent des blouses blanches pour se reconnaître, c'est obligatoire, sinon ils ne se reconnaissent pas. Et avec quoi ils achètent leurs blouses blanches? Eh bien, avec l'argent qu'ils piquent aux pauvres fous comme nous. Papa, je parle pour toi, oui, le fou. Mais je parle pour moi. Qu'est-ce que vous voyez que je fais? Nous, c'est moi, puisque je suis fou. J'ai bien le droit de m'appeler nous. Entre fou et nous, il n'y a pas de différence. Entre fou, on se comprend, hein? Blouse blanche, salopard. 10% pour m'arracher les couilles, vous ferez signer toute la colonie pour l'arrêté. De toute façon, à vivre dans un asile, autant sortir l'été devant encore jeune. Que si jamais la résurrection existe, au moins, on passera l'éternité en jeune homme et pas en vieillard. C'est ça que les gens ne peuvent pas comprendre. C'est l'avantage de mourir jeune quand on est fou.
Si j'étais riche, si j'avais de l'argent, pour les fêtes, je ferais venir ici des orchestres tziganes, que j'installerais au fond sur l'estrade. Le champagne coulerait à flot dans cette salle. Des invités de toutes les couleurs feraient une jarre à l'enfer. Des mezzanines descendraient des gigots entiers tenus par des fils qui traîneraient des kilomètres de saucisses. Qu'est-ce que j'en ai ? J'ai tout à coup envie d'une musique triste. D'une musique qui me fasse penser à quand je ne suis jamais allé au bord de la mer. Je pense à celle-là. J'ai envie de l'écouter parce qu'elle me fait pleurer. Et c'est ça qui m'amuse. Je n'arrive pas à inventer ma propre vie. Besoin de vider les chiottes de mon cerveau tous les matins. Ma vie propre n'a pas plus d'importance que celle du quatrième balalaïkiste de l'orchestre Zigane que j'imagine tout à l'heure. Naïchimai Boots, Chimai Rantziman, Vorsimé, Messingo. Il n'est pas plus ou moins important que moi. Il est moi. Dans un instant, nos routes vont diverger. Nous n'aurons plus rien en commun. Le trajet sera terminé. Il ne faudra pas en parler. Comme on dit les choses qui restent entre nous, cela restera là dans cet état qui est indéfinissable. Il n'y a rien à communiquer. La vérité que je recherche n'a de sens que dans la manière. Il faudra faire d'autres choses. Surtout ne pas pleurer de cette absence, ne pas se taper dans le dos soi-même. Vivre. Il faudra vivre. Respirer l'air des casinos. Risquer tout sur un numéro, une espèce de suicide à l'envers, une naissance au cri du bonheur. Putain, mais qu'est-ce que je raconte? En ce moment, à la clinique, ils ne se sont pas encore aperçus que j'étais parti. C'est seulement au repas de 6 heures qu'ils verront qu'il y a une place libre. On me cherchera. On s'inquiétera, on s'affolera. Je ne retournerai plus. Je ne veux pas qu'il y ait de regrets, pas de cris, pas de larmes, lorsque nous serons obligés de nous séparer. Il faut de la douceur, quelque chose comme de l'amour, même si cela est rare, un petit sourire du coin de la bouche, comme une marque de fabrique, surtout, surtout, ne plus être l'objet des autres. Maintenant, le temps peut passer, plus rien n'a d'importance. Tout a commencé il y a un peu plus d'une heure, lorsque vous ne saviez pas encore ce qu'il pouvait y avoir dans une tête. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans les yeux, les gens que je croise? Pourquoi faut-il que je souffre alors qu'ils s'en foutent? Ma rigolade intime n'arrivait jusqu'à aujourd'hui à ne faire rire que moi. Par un effort immense, je me suis hissé au-dessus du mur qui me bouchait la vue. Je vais vous dire, il n'y a rien derrière, rien. Je suis comme tout le monde, à égalité, au départ. Et à l'arrivée, j'entendrai cette musique, et cette musique me transportera. Je serai tout ce qu'il y a de plus normal. Je suis normal. Je me rends compte que je suis normal. J'ai une envie de hurler que je suis normal. J'ai une envie insensée de sentir dans mes cheveux le souffle du vent du Colorado. J'ai une envie folle, fille du vent, de sentir la mer qui me monte sur le cœur. Les gens, les gens. Les gens m'apparaissent comme des décalés que je ne comprends pas. On ne partage pas les envies de liberté. On ne partage rien. On est normaux. On se marre. On avance. On se rencontre. On se sépare. Ce soir, j'ai décidé d'aller au théâtre. Je viens de décider là pour me changer les idées. Ça fait longtemps que j'y suis plus allé. Enfin, je verrai bien. Chacun fait comme il veut. Mais j'ai une furieuse envie de fiction. Je suis en train de disparaître à l'intérieur de vous-même. Je n'existe plus. Plus compter sur moi pour vivre. Je suis ailleurs. Déjà. Thavès Bartal. Thavès Bartales. Bonne chance.
En vos fictions, plonger dans cette fiction-là, c'est bien de terminer là-dessus. Et si vous avez des questions, si Serge a envie de dire quelque chose, c'est vrai que c'était un exercice assez périlleux, ce mélange, de reconvoquer des gens qui ont travaillé il y a longtemps, de demander à Eric de parler de mise en scène qui va reprendre, tout ça. Pour essayer de vous donner envie d'aller plus loin dans la lecture, d'aller voir les pièces, et de ne pas passer à côté de ce théâtre-là, de cette écriture-là. Je voulais juste vous dire qu'il y a beaucoup de pièces éditées, donc on vous a distribué un petit mémato, vous allez trouver une bibliographie, et pouvoir continuer ce parcours qui était un petit apéritif, sans plus, et puis vous ayez envie d'aller plus loin. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Ou Serge, si tu as envie de rajouter des choses.
Moi, je voulais agir. Oui, moi, je voulais juste rajouter quelque chose, parce que c'est vrai qu'on est dans une période, moi, je considère, que je ne suis pas seul, un petit peu difficile, et que beaucoup de gens posent la question d'autres, se posent la question de savoir... et maintenant le théâtre, et maintenant l'écriture, et maintenant qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que la justification du théâtre, c'est justement de parler du monde qui nous entoure, est-ce que justement le théâtre n'arrive plus à parler du monde qui nous entoure. Et je trouve qu'il y a quelque chose chez Serge Valetti qui est exemplaire, c'est-à-dire qu'en fait, de tout ce que j'ai lu de lui, je me suis toujours senti, avec son écriture, absolument dans le monde. Et puis, ailleurs aussi, ailleurs, quelque part, hors du monde. C'est-à-dire qu'on est toujours entre les deux. Justement, quand je lisais La Papa, ce qui m'avait beaucoup troublé dans la pièce, c'est qu'il l'a écrit à une période, je pense, où beaucoup de gens se posaient des questions, et pas mal de pièces qui ont été écrites sur ce phénomène.
Carpentras, il a pu écrire. Il y a eu l'histoire de Carpentras.
Voilà. Et donc, et beaucoup de choses ont été écrites. Et des choses qui, si vous voulez, peut-être maintenant, si on les relisait, auraient du mal à survivre. Parce que c'est quelque chose comme ça qui était un regard, les yeux baissés sur les réalités. Alors que quand moi j'ai relu Papa, puis on a fait cette lecture des extraits là, cet été, ce qui est extraordinaire, c'est que justement le fait de l'avoir inscrit dans un univers entier, et ne pas avoir simplement fait une espèce de liste comme ça de tout ce qui pouvait troubler, choquer, énerver, c'est pas une liste de condamnation d'idées, c'est pas du tout ça, c'est un véritable univers théâtral et qui nous fait aller au plus près de la réalité en s'en éloignant forcément, mais qui nous fait arriver au plus près de la réalité. Et c'est bien entendu pour ça que je trouve que c'est pareil sur cet univers. Moi je sais pas si vous aimez qu'on parle de ça, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très méditerranéen. C'est ce que disait Nietzsche, les pièces se passent au bord de la mer, même pour beaucoup. Il y a des personnages, donc quand on lit les textes, même quand on les lit comme ça, on entend un soupçon d'accent. Il y a quelque chose, volontairement ou non, il y a quelque chose qui appartient à cet univers-là. Et d'un univers qui est justement, je trouve que c'est assez beau d'arriver à magnifier à ce point une langue qu'on retrouve comme ça, une langue qu'on peut entendre, et puis tout d'un coup elle est prise par l'écriture, elle devient autre chose, elle reste ce qu'elle est, elle devient autre chose. Moi je trouve ça assez beau. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup lire le texte. Oui, Pierre Ascari, vous voulez poser une question?
Oui, non, je voulais simplement dire par rapport à Papa que Serge, d'une manière poétique, a anticipé la rupture, la fait le nid, mais qu'elle avait qui est inscrite dans la pièce.
Oui, oui, oui.
Et c'était en 92, donc j'ai 9 ans que ça existe dans la réalité. Voilà, après, en effet, oui, c'est écrit en marseillais de boulevard Chave, quoi. Mais en même temps, je crois que c'est, bon, comme toutes les grandes belles écritures, c'est le fait qu'elles soient vraiment inscrites dans une vraie réalité qui leur donne une universalité et qui fait qu'on peut lire papa bientôt plus de 10 ans après. Quoi.
Je pense que même c'est encore plus vrai maintenant. Parce que c'est oui. vrai que l'univers de psychiatrique,
il faudrait remonter, je pense, Domaine Ventre, qui est une piste oui, très prémonitoire oui. sur les explosions, sur, etc. Donc. Il y a deux sorties à Domaine Ventre. Oui. Deux entrées. Dans le vrai, ça existe le Domaine Ventre à Marseille.
Oui.
C'est où?
Elle est à la rue d'Aubagne, l'autre est à la rue Moustier.
La rue d'Aubagne, la rue de la Palue, la rue Moustier, c'est un endroit qui s'appelle le Domaine Ventre.
C'est un
parce que ça, non, parce que ça appartenait à M. Ventre.
Il est ventre de
tout. Non, mais il s'appelait M. Ventre et il avait son domaine, qui est le Domaine Ventre.
C'est ça qui est génial dans le cœur de Serge.
Et c'est vrai, et moi, à chaque fois que je passais quand j'étais petit, je voyais Domaine Ventre.
Moi, je sais pas, j'ai compris que
c'était très tard, que ça me faisait peur.
C'est
là, on va passer. J'ai vachement investi là-dessus.
Et en plus, l'embrouille qu'il y a dans les textes de. Enfin, ça n'est pas ça, hein, mais elle est dans la quotidienneté de Marseille. C'est-à-dire, tu tombes en panne de bagnole, tu tombes en panne, tu ouvres ton capot, il y a quatre mecs qui viennent et qui te donnent leur avis. Ils sont pas plus mécanos que toi, tu vois. Donc ils vont t'embrouiller, ils vont t'engraisser, ça va être un truc. Pas possible, tu n'ouvres pas ton capot, si tu téléphones à un garagiste, parce que sinon tu en as pour la journée. Et, mais ça, c'est dans le concret. Mais après, à partir de ça, ça construit des choses.
Voilà. Ouais, en plus, les pièces ont bien entendu un point commun, qui est l'écriture qu'on retrouve de ce que disait Michel, Serge Alité dit de lui-même aussi. Mais c'est vrai que les
chats. Qui est presque l'anagramme de Chine.
mais c'est, par exemple, Domaine Ventre, oui. Domaine Ventre, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une intrigue policière. Et, si on peut dire, c'est une intrigue policière. Alors, j'ai pas enfin vu une intrigue policière à la Valetti. Alors là, au niveau des pistes et des pistes et des pistes et des pistes. On arrive à la fin de la pièce, je ne sais pas si d'ailleurs on se souvient des premières qui ont été données, enfin quand on l'avait vu, ça donnait un peu ça. Et c'est ça qui est assez beau, c'est d'aborder comme ça aussi le théâtre sous des formes qui sont différentes en gardant quelque chose. Moi c'est sur ça qui me touche beaucoup, c'est sur cette langue vraiment magnifiée. Putain. Une langue parlée qui tout d'un coup devient véritablement magnifique.
Questions, suggestions, remarques.
Est-ce que ça a été joué et traduit, ces pièces, les textes?
Garincha, sûrement, Garincha a été traduit en portugais et créé au Brésil l'année dernière. Ça va être créé à Lisbonne aussi pendant la Coupe d'Europe. Oui, donc c'est en portugais, mais ça sera le portugais du Portugal, parce que c'est pas pareil que le portugais du Brésil. Et sinon, carton plein en espagnol, mais, carton plein en bulgare aussi, mais bon, je n'ai pas vu. Et puis pub en anglais, et Marisa Minuit et réception en anglais aussi. Et Pub a été traduit en anglais et donc par un auteur qui s'appelle Richard Lynn, et ça a été lu par 65 acteurs. Donc il y a 65 personnages, et ils l'ont lu, donc ça c'est fantastique. Oui, alors. Et c'était très très surprenant. Parce qu'en Angleterre, il y a un groupement qui s'appelle les Monstrialistes. Le problème, c'est qu'ils se plaignent, les auteurs se plaignent, enfin, tout le monde se plaint, parce que les auteurs contemporains écrivent pour un, deux, trois acteurs, et puis il y a peu d'argent, donc on ne peut pas payer trop les acteurs. Et en fait, ils sont à la recherche de pièces monstrueuses. Monstrueuses au niveau du nombre d'acteurs, de décors, tout ça. Parce qu'en fait, le théâtre anglais est quand même principalement fait de grands théâtres avec des grandes troupes, mais pour le contemporain, c'est comme ça que ma pièce Pub, qui était monstrueuse vraiment et qui l'est toujours, a été sélectionnée pour représenter la France. Et donc c'était très beau. Enfin, Laurent, qui était avec moi, l'a vu. On avait l'interdiction de filmer. Parce que si on commençait à filmer, il fallait payer tout le monde. Alors c'était une ruine totale. Et puis même les syndicats n'étaient pas d'accord. Mais ça a été un grand, grand moment de l'année dernière pour moi de voir cette pièce en anglais comme ça, avec ses corps et ses accents anglais. J'ai eu l'impression de me retrouver chez moi. Alors que, bon, c'est méditerranéen, mais non, en fait, c'est pas méditerranéen, c'est du littoral.
Voilà.
Oui, pas spécialement de la Méditerranée. Je fais du théâtre de littoral. De la littoralure. Littoral attendue. De la littérature de littoral.
Tu as traduit Singe, d'ailleurs, je crois.
Alors, oui, j'ai traduit. Le baladin du monde occidental, qui est The Playboy of the Western World, et que j'ai traduit en Le gamer du Finistère. Mais pour le plaisir, j'ai traduit ça. J'espère le voir monter un jour.
Donc, un autre littoralien ?
Oui, maintenant, si je suis irlandais, mais c'est très compliqué parce qu'il écrit à la fois en irlandais, en anglais, on ne sait pas trop. Pas trop fixé sur en quoi il écrit. Donc en général, c'est très très mal traduit.
C'est difficile. Il faut trouver le. Ouais. La chose littorale.
Ouais.
Bon, est-ce qu'il y a d'autres réactions? En tout cas, si vous voulez lire les pièces, vous pouvez venir chez nous, là, parce qu'elles sont. Enfin, peut-être pas toutes, d'ailleurs, je suis sûre qu'il en manque. Une autre corde à l'arc de Serge, c'est qu'il maintenant il est directeur de collection.
Non, je
ne sais pas. C'est un éditeur, qui s'appelle La Talente.
Je dirige. Non, c'est La Talente qui a édité ma.
Il s'occupe d'une collection théâtre.
Mes deux romans, dont Pourquoi j'ai fait la main dans le vieux port, avaient en déshérence une collection qui s'appelait la Bibliothèque de la Chamaille. Et donc, moi, j'ai, comme je voulais éditer mes pièces, ils ont gentiment voulu les éditer chez eux. Donc, cette bibliothèque existait. Et ils ont décidé de me faire lire des textes et de choisir, moi, les textes que je voulais éditer dans cette collection. Et pour le moment, il n'y a que des pièces à moi dans cette collection. Je suis un directeur de collection. Tendance Ceausescu. Mais bon, je lis quand même des pièces. Et puis dernièrement, donc j'ai fait publier dans ma collection donc, un texte qui s'appelle Moi j'ai rien d'intéressant à dire, qui sont des paroles de spectateurs, mais de gens qui pratiquement sont jamais allés au théâtre. Ils ne savent pas trop ce que c'est le théâtre. Voilà. Donc c'est vraiment. Une vision très très juste de ce qu'est le théâtre contemporain en ce moment.
Il paraît que vous avez commencé à travailler avec les jeunesses, avec Christian,
on
en a parlé.
Ah non, c'est des gens qui, dans les ateliers.
On en a fait dire.
Ah, on en a fait dire à des gens, des éducateurs.
Mais enfin, je veux bien recevoir et lire des pièces.
Et pour les gens qui aiment les histoires de théâtre, il y a ce texte très beau. Et puis quand le jour s'est levé, je me suis endormi. Et j'y pense parce que Christiane Bonny va le reprendre.
Oui, à partir du mois de mars, oui, en tournée.
Le mois de mars, elle le reprend en tournée. Elle était en train d'essayer de se le remettre dans le crâne il n'y a pas très longtemps. Et elle souffrait.
Mais elle avait il y a d'autres projets là, à Grenoble, c'est ça?
Alors à Grenoble, il va y avoir le Festival Éthique. va durer 3 semaines, avec plein de pièces, des textes, et donc il y aura Christian dans Mazzucchini, dans encore plus de gens d'ici. Il y aura la Chantal Morel, je ne sais pas encore exactement ce qu'elle fait, mais elle va faire peut-être.
Il y aura
Léopold avec le journal de Léopold avec les élèves du conservatoire. Il y aura Christiane Coendi aussi en tournée. Il y aura le théâtre Romesco qui jouera l'utopie créative des escargots. Et il y aura 10 acteurs qui vont jouer les duos et les solos. Voilà. Et en avant-première, Ariane Asperi, ta sœur.
Elle a décidé de présenter quoi ?
On ne sait pas. Qui peut-être fera quelque chose, parce que j'ai écrit un monologue qu'elle devrait interpréter, mais on ne sait pas.
Mais pour le monologue, pour Marie-Zabini, le texte avait. C'est une question que je me suis posée, enfin, les deux fois où j'ai entendu. Ça avait été écrit pour une comédienne. Ou est-ce que...
Je l'ai écrit pour le jouer moi, enfin.
C'est ça.
Je l'ai jamais fait.